Je dis bonjour à mes commissaires, Hélène et Isabelle. Salut!
Bonjour Steve, ah, bonjour Isabelle.
Salut!
On a des sujets ce matin qui sont assez intéressants. D'abord, hier, on avait l'archevêché de Montréal qui proposait aux parents québécois opposés à l'enseignement sexuel du ministère de l'Éducation de donner eux-mêmes la matière à leurs enfants en se procurant un outil pédagogique qui a été rédigé par deux de leurs membres, là, un membre du clergé et un médecin cardiologue. Ben, je dis deux de leurs membres, c'était deux catholiques. Là. Et finalement, au cours de la journée, on a comme décidé de... On était moins sûrs.
On a mis de l'eau dans son vin.
Oui, tout à fait.
Ouais, on s'est distancé.
On a mis de l'eau dans le vin de messe.
Oui, dans le vin de messe. On s'est distancé un peu de la chose. D'abord, Isabelle, tiens là-dessus. Non, Hélène?
Ben, considérant les problèmes du clergé actuellement, là, notamment avec ses propres membres, je me serais gardé une petite gêne, moi, si j'avais été eux. Parce que je pense que François Legault, dès le départ, puis il l'a réaffirmé hier, et c'est tant mieux, a l'intention de faire en sorte qu'il n'y en aura pas de cas particuliers et que tout le monde devra suivre ses cours. Et on ne parle pas beaucoup d'heures, là, de 5 à 7 heures par année, c'est rien. Et c'est simplement dans un contexte d'égalité homme-femme, puis je vais parler de ça, puis de respect de la différence, on est rendu là. C'est pas juste un cours d'éducation sexuelle, c'est bien un cours sur l'acceptation de soi et des autres, tels que nous le sommes. Et ça va beaucoup plus loin que ce que l'Église pouvait permettre, par exemple, il y a 40 puis 50 ans. En fait, il permettait pas grand-chose.
Non, il permettait des choses, mais dans le noir.
Oui, mais dans le noir.
Sous la couverture.
Et il permettait des choses aux hommes.
Ah oh oui, c'est vrai.
Et
oui.
Il soumettait la femme à l'acceptation totale. Et je suis désolé.
On permettait
à la femme... devoir.
Et au devoir.
Le devoir, oui, c'était le devoir conjugal. Vous rappelez les termes? Le devoir conjugal.
Parmi tous les devoirs que tu as dans la vie.
Mais ça me fait penser. Tes devoirs conjugaux?
Je ne sais pas si... Puis là, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez déjà lu le petit livre de la bonne épouse canadienne-française qui date à peu près des années fin 50, début 60.
Et boy, mais j'échouerais le test, c'est sûr.
Ah non, ben, moi, de toute façon, ça fait longtemps que je serais lapidé.
Mais salutations à nos grands-mères. Honnêtement, là.
Absolument.
Oui, tout à fait. Il fallait faire preuve d'énormément d'abnégation. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Mais tout ça pour dire que je salue la persévérance de François Legault puis sa fermeté, et j'ose espérer qu'il ne fléchira pas.
Moi, je trouve ça, effectivement, la réponse de François Legault a été ferme. C'est dans le cursus scolaire, on n'en déroge pas, il n'y aura pas d'accommodement, à moins de cas vraiment très, très particuliers qui relèvent d'avoir eu un choc.
Mais c'est très compréhensible,
mais c'est très minime,
mais
aussi.
Oui, mais oui, mais
puis
oui.
Ils ont eu une réponse instantanée, claire, ce qui a forcé l'archevêché à revenir sur ces questions. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est entendre l'archevêché de Sherbrooke et la commission scolaire dire ce matin aucun commentaire de parents n'est arrivé, ni à la commission scolaire, ni à l'archevêché, sur ces cours qui, comme tu l'as dit, durent 5 heures.
Il n'y a pas de problème.
Par contre, tu sais, regardons le paysage canadien. Rappelons-nous qu'en Ontario, Doug Ford a fait retirer des cours d'éducation à la sexualité tous les concepts de consentement, d'ITS, d'infection transmissible sexuellement, d'homoparentalité, d'identité de genre. La même chose, on a appris aussi ce matin que Maxime Bernier, sa candidate dans la partielle dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, est une personne, une dogmatique catholique qui s'est exprimée contre les cours d'éducation sexuelle en Colombie-Britannique, notamment sur les notions d'identité de genre puis d'orientation sexuelle. Donc, tu sais, il faut être ferme et protéger nos acquis à cet égard-là, puis rappeler que même chez les politiciens qui ne nous semblent pas si extrémistes, il y a du laisser-aller et du laisser-faire à cet égard-là, tu sais.
Il y a des choses qui sont très pernicieuses, puis c'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant, parce que les dogmatiques, là, ils prennent un pouce, puis après ça, ils veulent un pied, puis ça va beaucoup plus loin. Et malheureusement, heureusement pour nous, je pense qu'on a fait des choix de société qui se doivent d'être respectés, et on doit apprendre à nos enfants très tôt la tolérance, puis l'acceptation.
Puis le consentement.
C'est parce qu'on a peur. L'argument principal, c'était la pudeur. On va atteindre la pudeur des enfants.
Je m'excuse, mais moi, j'en ai des enfants là, de niveau primaire là, qui arrivent avec des mots qu'ils apprennent dans la cour d'école. Là. Il faut recadrer rapidement... Oui. Ce que c'est en réalité, puis ben, ce à quoi oui. On fait référence, parce que sinon, ça part en vrille dès le primaire.
Oh, est-ce que c'est Internet qui va nous apprendre la pudeur?
Et
c'est quoi la pudeur, en fait?
Non, mais c'est correct,
quel mot bizarre.
Oh,
il y a une sexologue hier qui avait une réaction très intéressante et qui disait: comment est-ce qu'on peut protéger les enfants de gestes à caractère sexuel si on ne leur apprend pas rapidement à identifier
ce que c'est,
mais aussi les parties de leur corps qui appartiennent à leurs parties intimes, comme ils le disent,
et à bien les nommer
et à savoir où elles sont et à savoir qu'ils peuvent refuser gestes qui portent atteinte à leur corps.
Quel obscurantisme quand même d'avoir déjà pensé que ça ne faisait pas partie du reste de l'éducation.
Mais c'est
sûr. T'es un être humain, il y a une biologie, il y a l'aspect intellectuel, financier, il y a toutes sortes d'aspects reliés à ta vie, mais c'est comme si la sexualité... quelque chose à
mais
part.
Mais ça aussi, ça vient de l'influence religieuse. Il ne faut pas se le cacher. Et toute religion confondue.
Dossier réglé. En tout cas, moi,
on
selon le goût et la carte.
Puis notre gouvernement est ferme.
Oui,
on
est
a
d'accord,
gagné quelque chose. Exact.
Ça, c'est pas réglé. Ça ne le sera pas dans 5 ans. Ça ne le sera pas dans 10 ans. Ça va revenir de temps en temps. Les Québécois sont parmi les contribuables les plus lourdement imposés et taxés dans le monde.
Alors, on a droit à cette une-là une fois par année. Là, c'est comme
près.
Le ticket modérateur. À peu près, tu sais, ça nous revient à chaque année. Mais quand tu creuses un peu plus loin, hein, le rapport de Luc Godbout, tu te rends compte qu'on a quand même certains progrès. D'une part, la pression du fardeau fiscal sur le PIB diminue depuis 2 ans. Ensuite de ça, on parle de 5 milliards de plus. 5 milliards de plus, oui, mais c'est dans un contexte où l'économie roule à plein régime, hein, où le taux de chômage est plus bas. S'il y a plus de gens qui travaillent et qui gagnent des meilleurs salaires, évidemment que le niveau d'impôt augmente. Après ça, l'autre chose qui est intéressante, majoritairement, c'est de l'impôt plutôt que des taxes. Donc, c'est plus intéressant au niveau de l'équité. L'impôt, c'est moins inéquitable. Puis après ça, remettons en perspective aussi certains rapports qui sont certains faits des dernières années. D'une part, Luc Godbout lui-même nous avait dit que le Québec était le paradis des familles. Pourquoi? Parce qu'on avait des programmes sociaux très généreux qui faisaient en sorte qu'on avait un plus grand partage de richesses. Même chose, la crise financière en 2008, là, le Québec a été moins atteint par les impacts de la crise fiscale et s'en est sorti plus rapidement et plus efficacement. Pourquoi? Grâce à des mesures efficaces de partage de richesses puis à des programmes sociaux qui soutenaient davantage la classe moyenne que ses voisins. Même chose, moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur un truc qui s'appelle l'indice d'équité entre les générations. Donc, on mesurait plein d'indicateurs avec lesquels on a fait un indice et on s'est rendu compte que pour les familles et pour les jeunes, l'équité intergénérationnelle était meilleure au Québec, notamment, qu'en Ontario. Pourquoi? Parce que accès à la propriété, niveau de vie, capacité d'avoir des enfants et de soutenir un niveau de vie intéressant, beaucoup plus simple et facile au Québec. Et on avait une différence, soit un niveau de vie égal ou même supérieur aux générations précédentes, plus intéressant au Québec pour les jeunes qu'en Ontario, par exemple. Donc, il faut tout mettre ça en perspective. Oui, nos programmes sociaux sont généreux, donc ils nous coûtent cher, mais ils ont quand même des effets bénéfiques importants. L'autre chose que je notais d'intéressant, c'est que parmi les 5 pays les plus taxés, il y en a 3, Danemark, Suède et Finlande, qui sont les pays duquel on dit les meilleurs pays sociaux-démocrates. Puis on entend souvent dans l'espace public dire qu'il faut s'inspirer de ces pays-là en termes d'efficacité des services puis d'amélioration de la social-démocratie. Mais oui, mais ils sont les plus
En fait, dans le sommet, moi, de la pyramide, les seuls que je trouvais vraiment perdants, c'est la France. Ils sont au sommet de la taxation, de l'imposition. Puis là,
avec 11% de taux de chômage actuellement.
Et là, tu peux te permettre d'avoir un doute dans leur cas.
Mais avec beaucoup de difficultés au niveau de l'intégration des jeunes aussi.
Oui. Mais moi, je suis beaucoup plus inquiète qu'Isabelle et je vais expliquer pourquoi. C'est que oui, c'est vrai qu'on s'est donné, puis c'est un choix de société, des avantages sociaux qui sont, je pense, tout à fait légitimes puis qui nous servent bien. Par contre, là où je m'inquiète, c'est que si on considère qu'on est parmi les plus imposés et taxés dans le monde et que la seule chose qu'on entend lorsqu'on a des problèmes de société, on dit qu'il manque d'argent dans le réseau de la santé, qu'il manque d'argent dans le réseau de l'éducation, c'est que, objectivement, là, la seule chose auquel on pense lorsqu'on a un problème, c'est plutôt de regarder à changer la fonction de travail, puis notre organisation du travail, on se dit qu'il faut mettre plus d'argent. Mais si on est déjà parmi les plus taxés au monde, on va le prendre où, cet argent-là? On ne peut quand même pas continuer à presser le citron, notamment sur la classe moyenne. Et Isabelle, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aussi, on est parmi ceux qui taxons et imposons le plus nos entreprises dans le monde. La société québécoise est basée sur les PME, pas sur les grandes entreprises qui génèrent des milliards en bénéfices, mais bien sur les petites PME qui emploient la grande majorité des gens au Québec, à part, bien sûr, les services publics. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Et c'est bien plus ça qui m'inquiète, moi. C'est si je me projette dans le futur et qu'on n'est pas plus innovant que ça dans la solution de nos problèmes, qu'est-ce qu'on va faire?
Sur le taux, c'est une chose. C'est sur l'argent qu'on va être capable de réinvestir dans tout ça, comme tu l'expliques, là. Mais là, on arrive avec collusion, efficacité, organisation du travail, perte de temps, tu sais, les...
Moi, je suis pas en désaccord avec toi, Hélène, mais tu sais, puis je pense qu'effectivement, l'une des pistes d'amélioration, elle se situe pas juste dans mettre plus d'argent dans le système, mais améliorer son efficacité. Puis tu sais, cette semaine, on a parlé de la présence de bénévoles dans les CHSLD.
Partenariat privé-public.
Absolument, de plusieurs façons.
Quand ça marche, c'est que c'est avantageux.
Ben oui,
même d'améliorer l'octroi de services, l'accès à la première ligne en santé. On a parlé hier. Les pistes d'amélioration sont dans l'efficacité des services puis de la machine,
oui,
mais
puis
aussi
sortir de la boîte.
Dans la lutte à l'évasion puis à l'évitement fiscal.
Oui, t'sais? Mais ça, à un moment donné, là, ça fait partie du rôle du gouvernement. Mais nous, comme individus, il faut être capable d'amener de l'innovation sociale pour faire les choses autrement, parce que des solutions, là, il y en a plein autres que de l'investissement supplémentaire en argent.
Espérons qu'elles vont venir. En passant dans les taux d'imposition les plus bas, on retrouve à 16,1% le Mexique. Si vous pensez que c'est une bonne chose au Mexique, venez jaser avec moi. J'ai des petites nouvelles pour vous. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.